On fait, mais pour le moment, on continue un peu de Mishnayot. On est dans le troisième chapitre là, de Psachim. Hier, on a parlé d'un médicament dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a un médicament dans la Mishnah. On l'avait fait hier.
Il y a eu des réponses écrites.
Haroset, à Bavli. Haroset, ça t'est avant-hier, oui. Kuta à Bavli est un condiment, oui. Oui. Nous sommes dans la Maseret Pesachim.
Oui.
Sommes dans la Mishnah. Nous sommes dans la Mishnah. Si vous avez Mishnayot,
Dans
pour
le
le moment,
taf.
la Mishnah avant la Gemara, la Mishnah, Perek Gimel.
D'accord.
Et nous sommes arrivés jusqu'à la Mishnah Gimel. Nous sommes arrivés jusqu'à Mishnah Gimel. Alors, dites-moi, chers amis, quelqu'un, il se rappelle quel médicament nous avons parlé? Quelqu'un, il se rappelle quelque chose du genou qui a glissé sur le gazon? Et qui s'est blessé. Le son, S-O-N. Blé-mâché, Mazal Tov. Bon, c'est de la triche, il est dentiste, évidemment. Blé-mâché. Le blé-mâché. Et quel est, c'est un antiseptique qu'on avait fait hier, hein? C'est le genou qui lui fait rappeler la chose. Non, parce que moi, j'étais un spécialiste quand j'étais enfant. Je jouais au football et que le genou, il saignait. Alors, j'étais un professionnel, non? Voilà, c'est un antiseptique. C'est un cataplasme pour désinfecter, pour, comment on dit, désinfecter, pour nettoyer. Non, si c'est que nettoyer, peut-être c'est nettoyer, je ne sais pas. Cicatriser. Et en quoi c'est un. Pourquoi c'est. Il prend du blé et il mâche. Et en quoi ça nettoie le blessure? Alors, docteur Alouche, si déjà tu le dis, tu me dis aussi l'explication. Qu'est-ce qu'il y a dans le blé mâché qui aide? Vous entendez? Vous êtes avec moi, vous entendez? Faites comme ça, oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le blé mâché de bien? Quel est le pchat,
C'est ouvert le mi. Moi,
oh, je parle pas de toi.
Oui.
C'est le père qu'on est là.
C'est l'amidon, le sucre. Le vitamine quoi? Alors, docteur Messica, dites-moi, en quoi ça désinfecte? Loïlos Adam, chitim v'yaniach algabim kato, mipnei le produit qui agit, on ne sait pas. Bon, d'accord, on ne sait pas. Alors, on va continuer. D'accord, on attaque. On va faire la Mishnah Gimel, Perek Gimel. Mishnah Gimel, Perek Gimel. Si vous n'avez pas de Mishnah, vous avez une Gemara. Il faut regarder la correspondance dans la Gemara. Quelle est la correspondance dans la Gemara? Alors, c'est Daf Mem Vav Amud Alef en bas. Ce qui n'a pas de Mishnah, mais qui a la Gemara, il ouvre la Gemara Psachim Mem Vav Amud Alef en bas. D'accord, alors on commence. Keitzat Mfrishin Chala Betuma'a Beyom Tov. Comment on sépare la Chala quand elle est devenue tamée et on se trouve Yom Tov? Qu'est-ce que c'est comme histoire? Alors, c'est un cas d'école qui est très important pour une halakha, pour cette halakha, mais en vérité, de cette Mishnah, on peut peut-être trouver un heter nifla pour un sujet brûlant de Pessah. Keitzad mafrishin, comment on prélève la chala qui est tamé pendant Yom Tov. Alors, de quoi il s'agit? Alors, quelqu'un, il a pris de la farine cachère le Pessah. Il a mélangé avec de l'eau. Et il veut fabriquer des matzot. Alors, il a mélangé, il a pétri. Et maintenant, c'est devenu tamé. Un souris morte est arrivé. Elle a touché la pâte. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, ce bonhomme, il fait? Il faut prélever un morceau de challah pour pouvoir manger le reste. D'accord? On peut manger le reste? Pourquoi pas? C'est devenu tamé. Il n'y a pas de problème. Même si c'est tamé, on a le droit de manger des produits tamés. Tout aujourd'hui est tamé. On peut manger. Il n'y a pas de problème. Le problème est que pour pouvoir manger le reste, il faut que je prélève la challah. Et la challah, elle sera tamée. Une fois que la challah est tamée, elle ne peut pas être consommée. Qui est-ce qui consomme la challah? Le Kohen. Et la challah, elle est kadosh, comme de la trouma. La challah, c'est un din de trouma. Donc, si c'est tamé, si on la mange. Donc, le Kohen ne pourra pas manger. Qu'est-ce qu'on fait normalement avec la challah tamée? On la brûle. Seulement, nous sommes Yom Tov. Et comme nous sommes Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler la challah Yom Tov. Parce que Yom Tov, il est permis de brûler seulement ce qu'on a besoin, soit pour manger, soit pour se chauffer. Mais ici, brûler la challah, on n'a pas le droit. Il y a un din de en sorfin kochim beyom tov. On n'a pas le droit de brûler des kochim psulim. Et truma, qui est tamé, c'est comme des kochim. Kochim psulim, on n'a pas le droit de brûler yom tov. Alors, il ne va pas brûler. Il va brûler motse yom tov. Mais s'il va brûler Motsé Yom Tov, entre-temps, qu'est-ce qu'elle va devenir la challah? Elle va devenir quoi? Du chametz. Nous sommes Pessah et les chametz. Normalement, quand tu fabriques de la matzah, il faut mettre dans le four avant que ça devienne, avant que ça fermente. Mais ici, ça va fermenter. Alors, tu vas dire, je ne vais pas brûler, mais je vais mettre la challah dans le four pour faire quoi? Pour la cuire. Et si elle est cuite, la challah, elle ne peut plus devenir chametz. Alors, le roi, il y a une solution. Je vais prendre cette challah, je mets dans le four, je la cuis. Mais on n'a pas le droit de cuire Yom Tov. Non, on a le droit de cuire Yom Tov. Oui, on a le droit de cuire Yom Tov ce qu'on veut manger. Mais cette challah, je ne veux pas la manger. Alors donc, je vais cuire sans manger. Et on ne trouve pas le droit. Donc, je ne vais pas la cuire. Donc, je vais la laisser crue. Mais si on laisse une pâte crue, il fait honte. Alors, il va transgresser. Bal yira'eh ou bal yimatseh. Il me dit que quoi? Il a trouvé. Chametz. Il transgresse. Bal yira'eh ou bal yimatseh. Il possède du chametz. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà le problème qui est posé. Alors, on va regarder les différentes propositions que la Mishnah nous donne. Keitzad mafrishin chala betuma beyom tov. Rabbi Eliezer Omer, l'otikra l'Hashem, achetéafé. Il ne faut pas la prélever quand c'est pâte. Il faut d'abord prendre toute la pâte entière et la mettre dans le four pour cuire. Ça y est, j'ai une matzah maintenant. Une fois que j'ai une matzah, je casse un morceau et je dis, toi, tu es challah. Qu'est-ce que j'ai gagné? Que quand j'ai cuit, je ne sais pas quel morceau est challah, quel morceau est choulin. Donc, en théorie, chaque morceau est mangeable. Donc, j'ai le droit de cuire. Ça ne s'appelle pas que je cuis quelque chose qui n'est pas mangeable. Étant donné que je n'ai pas défini où est la challah, où est la pas challah, tout est raou, il y a choulin. Donc, tout est considéré comme mangeable. Donc, j'ai le droit de cuire. Il n'y a pas d'issue de cuisson. Et après, je prélève. Et la mitzvah de challah, on peut prélever même après la cuisson. C'est la mitzvah de... Ça ne change pas. La Torah nous dit « Reishit arisotechem challah tarim uteruma ». La mitzvah de challah, de prélever, commence dès qu'on a pétri, dès qu'on a, on a mélangé gilgul, ça s'appelle, on met galgel la farine dans l'eau, on met l'eau sur la farine ou la farine dans l'eau, on commence à mélanger. La mitzvah de challah commence sur toute la farine qui est déjà dans l'eau. D'accord. Mais si on n'a pas fait quand c'était pâte, eh bien, on peut faire une fois que c'est cuit. Il n'y a pas de problème. Et donc, je peux faire... Donc, il faut faire attention de ne pas prélever le challah maintenant, seulement d'abord cuire. Et après que j'ai cuit, je peux prélever. Rabbi Yehuda ben Beteir Omer, a-t-il betzonen. D'après lui... Ce n'est pas ça la bonne solution, mais la solution est autrement. Tatil Betsonen, on prend cette chala, on prélève la chala maintenant. Et après qu'on a prélevé la chala, on n'a plus le droit de la cuire, mais met dans l'eau froide ou de mettre au frigidaire. Ça ne peut pas devenir chametz. Le froid bloque la fermentation. Ça, c'est d'après Yehuda ben Beteir. Amar Rabbi Yeshua, לא זהו חמץ שמוזרין עליו ובעל יראה או בעל ימצא. Lui il dit, il n'y a aucun problème. Ne vous cassez pas la tête. Tu peux prélever maintenant la challah. Et tu n'as pas le droit de la cuire. Et tu vas la laisser. Et tu n'as pas besoin de chercher du froid. Tu vas la laisser, elle va gonfler, elle va devenir chametz, tu ne transgresses rien. Sur cette challah, personne ne transgresse bal yereh ou bal yematse. Pour quelle raison? Parce que cette challah n'a pas de propriétaire. Qui est le propriétaire de cette challah? Le Kohen. Mais quel Kohen? On n'a pas encore donné au Kohen. L'Israël n'est pas propriétaire. Dès que tu prélèves et tu dis challah, ça ne t'appartient plus. Ça appartient maintenant à qui? Kohen, au Kohanim, au Shevet Kohanim, à la tribu de Kohen. Il y en a 10 000 Kohanim, 100 000 Kohanim, 1 million de Kohanim dans le monde. Ça leur appartient. À la fin, à qui je vais donner, à qui je veux. À la fin, moi, je décide, je le donne à un des Kohanim. Moi, j'ai le droit de désigner. Moi, comme propriétaire, comme ancien propriétaire, j'ai le droit de désigner. Mais ça ne m'appartient pas, il ne m'appartient que le droit de distribuer. Mais ce n'est pas à moi. Et ce n'est pas encore à un Kohen Meyuchad. On ne sait pas quel Kohen à la fin il va recevoir. Et aucun Kohen, il a le droit de réclamer. Vous êtes obligé de me les donner. Non, je ne suis pas obligé de donner à toi. Je vais donner à quelqu'un d'autre. Au même il est parce qu'on transgresse. La Torah dit Loïra et le Ha Hametz. Toi, tu n'as pas le droit. Si je l'aurais donné à un Kohen tout de suite, eh bien, ce Kohen, il transgresse. Si je le donne à deux Kohanim, chacun peut réclamer la moitié, les deux, ils transgressent. Si je le donne à 10 Kohanim et à 10 Kezaitim, eh bien, chacun transgresse sur son Kezait. Mais je ne le donne à aucun Kohen. Et à la fin, ça va donner dans la main d'un Kohen, l'autre Kohen ne peut pas réclamer. Et donc, personne n'y transgresse. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Personne transgresse, elle est mafreshata, donc la femme peut prélever la challah, ou manichata ad haeref, elle laisse la challah chez elle, Veim hechemitza, si c'est chametz, hechemitza, c'est chametz, c'est pas grave. Maintenant, pourquoi je dis que cette Mishnah peut donner des idées pour un heter fantastique? Éventuellement, dans cette Mishnah, il se trouve une solution. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de tous les chametz qui se trouvent en Eretz, qui appartiennent à l'État. En Eretz, l'armée a du chametz. Je ne parle pas ce qui est dans le magasin. Je ne parle pas ce qui est dans les usines qui appartiennent aux propriétaires de l'usine ou aux propriétaires pluriels de l'usine. Je ne parle pas aux magasins qui appartiennent à un homme ou plusieurs hommes, qu'eux sont les propriétaires, chacun a des pourcentages dedans. Je parle des chametz qui appartiennent à l'État, par exemple, le militaire, ils ont des biscuits, ils ont, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont des chametz. Le blé qui stocke, ça, c'est pas grave, le blé. S'il n'était pas mouillé fortement, lentement, alors c'est pas chametz. Et on le mouille qu'avant. La farine qui appartient. Farine, des fois c'est chametz, des fois c'est pas chametz. Ça dépend combien du temps. Avant la monture, on a trempé dans l'eau. Je ne sais pas ça. Il faut voir sur place comment ça a été moulu. Mais, et même si c'était souvent, c'est, même si c'était longtemps, des fois c'est chametz. Donc, des fois c'est du vrai chametz aussi. Bon. En tout cas, la farine, des fois c'est pas du tout chametz. Le khatrile, oui, mais bediavad, non. Mais il y a des choses qui sont déjà fabriquées. Il y a des gâteaux sûrement, peut-être du pain. Alors, est-ce qu'on transgresse Baal Yéraé? Alors, on va dire, qui est-ce qui transgresse Baal Yéraé? Le propriétaire. Mais qui est le propriétaire? Clamé. Un soldat, il vient et dit, je suis soldat, vous êtes obligé de me donner, je ne sais pas quoi, il y a 50 000 soldats, disons. Il y a 50 000 kilos de biscuits. Alors, un soldat, il vient chez le chef d'armée, il va dire, il y a 50 000 kilos de biscuits, oui. Il y a 50 000 soldats, oui. Il dit, ah, moi, à part un kilo. Alors, je réclame mon kilo. Le chef d'armée peut dire, non, je ne suis pas obligé de les donner à toi, je peux donner à un autre. Ah, c'est injuste, pourquoi pas moi? Parce que toi, je vais donner des chocolats. Non, je ne veux pas des chocolats, je veux des biscuits. Mais je ne veux pas te donner des biscuits, je vais te donner du chocolat. Il n'y a aucune loi qui oblige le chef d'État de lui donner le biscuit. Nimsa, on pourrait peut-être comparer la propriété sur ces biscuits à cette chala qu'il n'y a pas de vrai propriétaire. Le chef d'État d'armée, lui, n'est pas propriétaire, lui, il est gérant. Lui, il est peut-être comparé au Israël qui a un zhout de choisir à quel Kohen donner. Mais lui, il ne transgresse pas parce qu'il n'est pas propriétaire. Et les soldats, ils doivent être comparés à tous les Kohanim que personne n'a le droit de réclamer, donner à moi ma part. Et donc, les Chorah, personne ne transgresse le fichita de Rabbi Yeshua. Donc, ça, c'est un limot zhout. Et peut-être c'est halakha, peut-être c'est juste l'alpi halakha que personne transgresse sur ce chametz. Dans les magasins, c'est autre chose. Dans les usines, c'est autre chose. Les usines qui ont un stock de chametz, eux peut-être, ceux qui ont un stock de chametz, eux, c'est... Les usines, c'est des propriétaires. Et si on va vendre le stock, l'argent appartient aux uns. Ça, c'est pas juste. Sauf, mais maintenant, il me vient une idée. Et maintenant, il me vient une idée. Mais bon, elle est folle, mais bon, c'est pas grave. Il me vient une idée. Imaginez-nous un cas. Mais ça va pas être comme ça. Mais on sait jamais. On peut pas savoir dans la vie. Imaginez-nous un cas qu'à cause du virus, l'État va faire une saisie, elle va réquisitionner les usines de biscuits, le stock. Imaginons-nous qu'avant Pessah, l'État dit, aïe, il y a un danger, on a besoin de réquisitionner les aliments, et nous prenons usine Plony ou Plony, Il y a là-bas tant et tant des tonnes. Plaf, nous mettons la main dessus. Vous n'aurez plus le droit de vendre. Nous allons d'abord prendre ça aux mains. On vous payera, disons, si on l'utilise en vérité, si en vérité on va l'utiliser, on va vous payer le prix. Si on n'utilisera pas, on va vous le rendre. Mais pour le moment, c'est réservé pour nous et c'est à nous de gérer ça. Nous allons gérer. Alors, si nous allons gérer, Nimtsa, que peut-être ça comparable à la Mishnah que nous avons vue hier. Quelle Mishnah nous avons vue hier? Qu'un goy qui prête de l'argent aux Juifs et le goy prend du chametz comme mashkon. Le Juif, il est obligé de donner son blé comme gage. Et le goy, il dit que si tu me rembourses l'argent, je te redonne, sinon je le prends. Et là-bas, dans la sugya d'Afsam Lamed Aleph, il y a plusieurs conditions. Il faut que le goy, il a fait un kinyan. Et il faut qu'on dise, mais achshav, à partir de maintenant, ça appartient au goy. Dans ce cas-là, les Juifs transgressent plus Baal Yera'eh. Maintenant, il se peut que si un État, il dit, je réquisitionne, dans ce cas-là, il devient propriétaire pour le moment. Pour le moment, c'est à lui. Ça y est, c'est à lui. Comme s'il a acheté. Et il va peut-être le redonner s'il n'a pas besoin, s'il a besoin à payer. Pour le moment, c'est à l'État. Donc, si pour le moment, c'est à l'État, eh bien, plus personne n'y transgresse. Donc, on va développer ça un peu plus. Imaginons qu'avant Pessah, il réquisitionne donc le stock de Hametz, les stocks de Hametz, et après Pessah, ils vont dire, bon, Baruch Hashem, tout est passé bien, on n'a pas besoin, on va vous rendre tout. Nimsa, que personne n'a transgressé, va aller... C'est une idée. Alors, nous allons continuer. Prochaine Mishnah. Rabban Gamliel Omer, Shalosh Nashim Lashot Ke'achat. Trois femmes, elles peuvent pétrir ensemble. Ensemble, ça veut dire dans le même temps. Imaginons-nous une petite usine de fabrication de matzot, de la famille. Alors, il y a trois femmes. Il y a une grosse table, il y a un grand table, chacune est là un pétrin, chacune a des outils pour pétrir, de l'eau, de la farine, et on commence à fabriquer des matzot. Très bien. Alors, combien de temps ça leur prend pour fabriquer des matzot? 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas, disons 10 minutes, quart d'heure. On commence ensemble de fabriquer les matzot. Shalosh nashim lashot ke'achat, elles pétrissent ensemble. Ve'ofot betanur echad, et on va cuire dans le même four. Mais il n'y a pas de place dans le four qu'une matzah après l'autre. Il n'y a pas de place pour deux matzot. Alors, zu achar zu, une après l'autre, on peut... Quel est le chidush? Qu'est-ce qu'il me dit, Rabban Gamliel? Où est le problème? Où est la problématique qu'on discute? La problématique, elle est comme ça. Si une femme fabrique le matzah, elle prend une pâte, elle pétrit. Elle a fini de pétrir, elle met dans le four. C'est bon, elle a mis dans le four. C'est matzah, tout est bien. Mais s'il y a trois femmes qu'elle commence à pétrir au même moment, après 10 minutes de pétrissage, les pâtes sont terminées de pétrir. Maintenant, une elle a terminé et met dans le four. Mais si tu mets dans le four, il faut attendre 3 minutes, disons, jusqu'à ce que c'est cuit. Pendant ces 3 minutes, les autres deux matzot sont là en train d'attendre. Donc, pendant ce temps-là, ça peut devenir chametz. Alors, est-ce qu'on craint ou est-ce qu'on craint pas? C'est ça que Rabbi Gamliel dit. Trois femmes qu'elles pétrissent au même moment, malgré qu'elle cuise que dans un four, une après l'autre, c'est pas grave, ça va pas devenir chametz. Et pourquoi Ramliel parle de 3 femmes et pas de 4 femmes, de 5 ou de 6? Parce que ça, c'est interdit. Si tu as 6 femmes, donc 6 femmes, donc il faut la 6e femme qui commence. Si elle commence à pétrir ensemble, la pâte de la 6e femme va attendre 5 cuissons avant elle, après d'avoir terminé de travailler. Tant qu'on travaille sur une pâte, il ne devient pas chametz. Mais quand je finis de travailler, il n'y a rien à faire. Ça y est, la pâte, il est sans bouger. Donc, si maintenant, il y en a 5 pâtes qu'on met dans le four, un après l'autre, disons le four, c'est 3 minutes. 5 fois 3 minutes, ça fait 15 minutes. Donc, la pâte de la 6e femme reste 15 minutes sans travailler. Et pendant ce temps-là, la pâte peut devenir chametz. C'est pour ça la limite, c'est 3. 3 femmes peuvent commencer à travailler ensemble. Voilà, c'est ça que Ramliel dit, mais pas plus que 3 femmes. Les chachamim omrim, les chachamim ils disent, shalosh nashim oskot bebatzet. Il faut faire autrement. 3 femmes peuvent s'occuper de la pâte, mais pas toutes les 3 femmes commencent à pétrir au même moment et qu'elles terminent à pétrir au même moment. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire un roulement. Achat l'acha, une femme, elle pétrit. Va'achat orechet, et la 2e femme, elle donne la forme. Va'achat ofa, et la 3e cuisine. Ça veut dire, il faut comprendre comme ça. À 2 heures, on commence la fabrication des batzot. Disons, il faut, je prends n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Il faut 10 minutes pour pétrir. La masse, c'est 10 minutes, mais on va prendre un cas. Il faut 10 minutes pour pétrir. Et il faut 10 minutes pour faire la forme. Alors, la masse, c'est moins. 10 minutes pour pétrir, 5 minutes pour faire la forme et 3 minutes pour cuisiner. Bon, d'accord. Alors, il faut commencer. La première femme commence à 2 heures. Et la 2e femme commence à 2 heures et 10 minutes. Donc, la première pétrit 10 minutes. Quand elle a fini de pétrir, la 2e commence à pétrir. Et la première, elle va faire quoi? Elle va faire la forme. Et après quelques minutes, elle a terminé. Elle va donner à celle qui cuisine. Une fois qu'elle a donné à celle qui cuit, elle va recommencer à pétrir. Après que la dernière elle a cuit, celle qui a pétri, elle va faire la forme. Et après, on va cuisiner. Mais ça va faire un galgal. Que chaque fois c'est 3, quand ils travaillent en roulement. Et quand on travaille en roulement, la pâte ne va pas rester sans être travaillée. C'est comme ça qu'on évite le risque que ça va devenir chametz. Rabbi Akiva, Omer, Rabbi Akiva, il dit, lokol hanashim, pas toutes les femmes sont pareilles. Velokol ha'aitzim, et pas tous les bois qui chauffent le four. Velokol ha'tanurim, et pas tous les fours shavin sont pareils. Qu'est-ce que Rabbi Akiva dit? Lui, il dit, on ne peut pas donner une généralité. En gros, c'est plutôt juste ce qu'ils disent, les rachamim. Mais Rabbi Akiva, il dit, il y a des femmes qui travaillent vite, il y a des femmes qui travaillent doucement, il y a du bois qui prend le feu bien, bien, et ça devient archi chaud. Il y a des bois qui ne prend pas le feu facilement, et ça prend plus du temps. Il y a différentes sortes de fours. Il y a des fours avec des pierres réfractaires qui gardent bien la chaleur qui ont en eux. Et il y en a des fours que dès que le bois diminue, tout de suite la chaleur est diminuée. Il y a des fours que tu as chauffé une fois, même si le bois il a consumé, ça garde bien la chaleur. Donc, Rabbi Akiva dit, on ne peut pas donner une règle. Ça, il faut regarder sur la place. Et on ne peut pas donner une règle. Ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant, la question, elle est, pourquoi la Mishnah parle des femmes qu'elle pétrit? Pourquoi pas des hommes? Pourquoi on parle des femmes? Est-ce qu'à l'époque de la Gemara, les matzot étaient fabriquées plus par des femmes? Peut-être, comme les chalot, comme toute l'année. Qui fait les chalot toute l'année? Le chvot Shabbat. Ah si, on dit, c'est les femmes qu'elles font. Pourquoi? Parce que toute la semaine, les femmes s'occupent de la cuisine, elles préparent le manger. Comme ça dit la Mishnah Ketubot. Bon, c'est pas chaud, on n'a pas besoin de Mishnah, mais peut-être on a eu besoin. En tout cas, c'est la Mishnah, ça fait partie des 10 travaux classiques qui sont normalement un travail d'une femme. La femme, elle cuisine, elle fait le pain. C'est normal. Et on dit, il y a la mitzvah de Chala aussi que la femme, elle fait. Je dirais que c'est important. Kadosh Baruch Hu, il a créé comme ça. Une femme qu'elle ne cuisine pas, qu'elle achète toujours les plats cuisinés à l'hôtel où le mari cuisine, c'est spécial. On peut vivre comme ça aussi. On peut vivre beaucoup de choses qui sont un peu pas normales. Mais il y a le normal et il y a le pas normal. Faut pas trop marber pas normal, quoi. Faut pas sortir trop du naturel. En tout cas, la Mishnah, elle veut parler des exemples. Elle me parle des femmes. Kilou, c'est, on dirait que c'est naturel que les femmes fabriquent les matzot. Alors, en tout cas, si quelqu'un dit une femme n'est pas saoule pour faire des matzot, elle ne sait pas faire attention, eh bien, le Chora, il a oublié le Mishnah. Alors, on va continuer Mishnah. Zéaklal, voici la généralité. Tapach, il toche betsonen. Tapach, si la pâte commence à gonfler, on travaille comme ça. Ramon lui dit, on peut attendre un petit peu. Les trois femmes ont commencé à travailler ensemble et on attend quelques minutes entre la finition de la formation et la cuisson. C'est pas grave, quelques minutes, ça va pas devenir chametz. Et si tapach, on voit, ça commence à gonfler. Ouh, ça commence à gonfler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas parce qu'il commence à gonfler un petit peu, c'est tout de suite chametz. C'est pas tout de suite chametz. Ça prend plus de temps. Dès qu'il voit que ça commence à se lever, il toche betsonen. Il faut tout de suite le mettre dans l'eau froide, mélanger avec de l'eau froide et refroidir pour bloquer la fermentation. Maintenant, pourquoi on ne prend pas une montre? La Mishnah nous dit, Tipach, Tiltosh Betsonen. Pourquoi les Chachamim ne parlent pas avec une montre? Il n'y avait pas de montre à l'époque. Les gens, ils n'avaient pas de montre. D'abord, il y avait 8 Mistama des montres. Il y avait ce qu'on appelle la montre du sable, le sablier, le salière, un petit truc là avec du sel et du sable. Et ça passe et on peut mesurer les minutes. Pourquoi Chachamim nous ont pas donné le temps? Si tu vas me répondre parce que la majorité, ils n'avaient pas de sablier, je dirais d'accord. La majorité n'avait pas, mais il y avait des gens qui avaient oui. Donc Chachamim, ils auraient pu nous donner le temps dans le sablier. Une heure, il existe bien un shiur de une heure. Esrim va arba shaot. Et après on dit que des hiluch mil. Que des hiluch mil, c'est 18 minutes. Et après, on nous dit un quart, ou deux tiers, ou trois quarts des Hiluchmil, 13 minutes et demie pour la Shkia de Rabbeinu Tam. Il existe bien dans la Gemara des définitions du temps sur les minutes près. Alors, Karim, ils auraient pu dire, si le Shi'ur de Chametz, depuis les pétrissages jusqu'à la cuisson, si ça avait été, s'il aurait existé un temps mesurable sur la montre exacte de 10 minutes, de 9 minutes, si c'est 9 minutes, on dit que des shiur chatsimil, hiluch chatsimil, c'est 9 minutes. Si c'est 8 minutes, on aurait dû dire presque. Oh, il y a d'autres moyens pour dire les minutes. Et on ne trouve pas. Alors, il y a dans la Gemara que des hiluch mil, ça existe aussi. Ça existe aussi, mais c'est mêlé avec d'autres indicateurs. Mais en vérité, le pshat, il est qu'il n'y a pas vraiment un temps fixe parce que ça dépend à plusieurs facteurs. Ça dépend la farine, ça dépend l'eau, ça dépend la chaleur dans la salle ou en cuisine. Il est marqué dans la Gemara, on n'a pas le droit de pétrir dans une salle qui est chauffée. qui est chaud parce que ça accélère. Il faut toujours faire dans une salle qui est fraîche. On n'a pas le droit de faire dans le jardin s'il y a du soleil. Et s'il y a des nuages, aussi on n'a pas le droit de faire parce que la chaleur peut rester bloquée. On n'a pas le droit de, évidemment, de pétrir devant le four. Il faut aller loin du four parce que proche du four, c'est chaud, donc c'est plus vite. Alors, et ça dépend l'eau. L'eau avec laquelle on fabrique les matzot. Il faut fabriquer avec Maïm Shelanu. Ça veut dire quoi, Maïm Shelanu? L'an veut dire passer la nuit. Maïm Shelanu, de l'eau qui a passé la nuit. Ça veut dire qu'il faut puiser l'eau la veille de la source ou d'un fleuve et il faut faire passer la nuit. Comme ça, si jamais l'eau était un peu chaude, on aurait un Israël spécial. Il y a des fleuves. S'il y a du soleil, elle est très chaude, l'eau, elle est peut-être tiède. Il ne faut pas pétrir avec de l'eau tiède. Ça risque d'accélérer les processus de chimutz. Donc, il faut toujours laisser la nuit l'eau. Maintenant, aujourd'hui, dans les usines, on ne fait pas attention à ça, il me semble. Ils prennent l'eau du robinet, il me semble. Pourquoi on prend l'eau du robinet? Parce que normalement, elle n'est pas chaude. En vérité, je ne sais pas exactement comment ça marche dans les usines de matzot. Je pense qu'on prend l'eau du... On ne laisse pas passer la nuit. L'eau du robinet... Combien de degrés là, l'eau du robinet? Ça dépend l'été et l'hiver. En été, des fois, l'eau, il est un peu... Il n'est pas froide. L'eau n'est pas froide. Si l'eau n'est pas froide, il ne faut pas prendre de robinet, il faut bien mettre. Si quelqu'un il habite dans une ville où l'eau de robinet n'est pas froide, il ne faut pas faire le matzot. Dans ce cas-là, il faut le laisser la nuit dans la cave, on le laisse dans un endroit fraîche. Est-ce qu'ils mettent un masgan? On est dans les usines des matzot, Mistama. S'il y a un masgan, il y a un clim, comme ça c'est frais, Mistama, oui. Et le four, il faut toujours être dans une autre pièce. Il faut être dans une autre pièce, évidemment. Alors, en tout cas, pour revenir, c'est que étant donné que dans l'absolu, il n'y a pas de... On ne peut pas donner un temps fixe, combien de temps il faut pour que ça devienne chametz. Donc la Mishnah nous dit tapach, si ça commence à gonfler, kiltosh betzonen, il faut tout de suite le refroidir avec de l'eau froide. Prochaine Mishnah, seor yisaref. Si la pâte a commencé à gonfler, il est arrivé dans un état qui s'appelle seor. Alors yisaref, il faut le brûler. Qui faut brûler? Qui faut brûler? La pâte, il faut brûler, pas le monsieur. La pâte, il faut brûler. Va'ochlo patour, mais ceux qui les mangent quand c'est ce or, il est patour de carette. Alors, qu'est-ce que c'est ce or? Ce or, ce n'est pas ce que nous appelons kol ce or lo yimatse bebatichem. Il ne faut pas se planter ici, faire une erreur de traduction. Dans la Torah, c'est marqué Shivat yamim ce or lo yimatse bebatichem. 7 jours du levain ne doit pas se trouver dans ta maison. Car chacun qui mange du chametz, il est chayav karet. Et la Mishnah nous dit que ceux qui mangent ce or, il n'est pas chayav karet. Parce que le sort de la Mishnah n'est pas le même que le sort de Chumash. C'est quoi la différence? Le sort de Chumash, c'est de chametz concentré qui est resté longtemps chametz. Je m'explique. Si on prend de la pâte, on mélange la farine avec de l'eau et après on laisse gonfler. Alors ça gonfle et plus longtemps on laisse gonfler, plus la pâte devient chametz. Chametz veut dire quoi? La traduction du mot chametz, c'est acide. Chometz, c'est vinaigre, c'est aigre. Aigre, c'est le contraire de douce. Douce veut dire sucre. Dans le blé, naturellement, il y a du sucre. Et quand la fermentation commence, le fameux champignon mange le sucre. Donc, la pâte, il est moins sucré qu'avant. Et comme il est moins sucré, il devient aigre. Et plus que ce processus avance, moins la pâte est sucrée et plus la pâte devient aigre. Donc, si vous faites des chalotes à la maison aujourd'hui, peut-être dans cet après-midi, l'autre montée, et après prenez un morceau de cette pâte et mettez le nez à côté, respirez. On sent une odeur d'aigre. C'est aigre, oui, parce que le blé qu'on lui a volé, son blé, dégage une odeur aigrie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on ne met pas la pâte dans le four? Chez nous, on fait les chalotes, c'est chametz, très bien, on met dans le four. Maintenant, j'ai des bons chalotes pour Shabbat. Si maintenant, vous ne mettez pas dans le four, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pâte va continuer à aigrir, le c'est plus. Vous le laissez pendant 3 jours. Vous laissez la pâte pendant 3 jours. Et bien, il va continuer à devenir toujours plus et plus aigre. Ça ne s'arrête pas, le processus. Ça va bouffer presque tout le sucre qui est dedans. Il est archi-aigre. Essayez après 3 jours, prendre cette pâte et mettre dans le four. Et vous allez le sortir, vous allez faire des chalotes. Vous allez manger ces chalotes et dire, il y a l'aigre, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi ces chalotes? Mais c'est pas mangeable. Immangeable. C'est trop aigri. Ça s'appelle ce or. Quand le chametz a dépassé le stade normal, il est devenu archi-aigre, il s'appelle ce or levain. Maintenant, ce levain est fabriqué dans les bonnes pâtisseries. Pour faire quoi? Pour accélérer le processus des autres pâtes. Ça veut dire quoi? Quand on va fabriquer des chalotes, alors qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle mélange la farine avec de l'eau, elle pétrit. On attend quoi? 2 heures, et c'est monté, et après on fait les chalotes. Mais dans 2 heures, ça ne devient pas du vrai chametz. Ce n'est pas du bon chametz. Il faut la faire accélérer. Alors, soit qu'on achète artificiellement, il y a des accélérateurs, ça s'appelle de la levure artificielle. On ajoute et ça fait aider à gonfler ou des vitamines C, au bicarbonate ou toutes sortes de choses comme ça. Ou on prend le levain naturel. Qu'est-ce que c'est le levain naturel? Alors, vous demandez chez le boulanger, qu'est-ce que c'est le levain? Pain au levain, des fois, ça marche. Alors, pain au levain, ça marche. Il y a un pâtissier, il y a un boulanger, il a fait une pâte, il a laissé fermenter pendant 3 jours. Il est archi aigre. Et après, il commence à faire du pain. Alors, il prend de la farine, il mélange avec de l'eau. Et après, il prend un morceau de ce levain, de ce sohor, il met dans la pâte, il mélange bien. Et comme c'est tellement archi aigre, le sohor, il aide à accélérer la fermentation du chametz. Nimtsa que le sohor est un fabricant de chametz. Le sohor lui-même, il est immangeable, il est trop aigri, personne ne mange ça. Mais il aide à fabriquer la farine normale, il donne un coup d'accélération pour qu'il devienne plus vite chametz. C'est pour ça que la Torah, elle appelle le sohor machmetzet. Elle rend chametz une autre pâte. Donc le verset, Shivat yomim, Shivat sohor lo yimatzeh bebatechem, 7 jours. Le sohor, le levain, l'oïmatsé ne doit pas se trouver dans vos maisons. Qui kol ochel machmetzet, car chacun qui mange quelque chose qui rend chimout, la pâte, ça veut dire de levain. Donc, ça, c'est le sohor de la Torah. Donc, le sohor, la Torah, il l'a interdit parce qu'il est machmitz. Raoui la chameyaba isot acherot, l'expression de la Gemara. Il est raoui. il est apte, il est capable de rendre chametz, chamea, c'est-à-dire chametz, de rendre aigri les autres pâtes. Maintenant, nous allons revenir à notre Mishnah. Notre Mishnah parle de ce or qui n'est pas le seor du Chumash, qui est le seor de la Mishnah. C'est le contraire. C'est une pâte qui a commencé à gonfler, mais n'a pas bien gonflé. Il n'a pas encore atteint le chimutz normal d'un pain. Donc, disons, tu prends du pain, tu prends une pâte, tu fais une pâte. Disons, pour faire un bon pain, il faut 6 heures de fermentation. Sauf si tu ajoutes du levain, eh bien, c'est après 3 heures, c'est bon. Si tu ajoutes pas de seor, tu as besoin 6 heures. Maintenant, je n'ai pas laissé 6 heures. Je fais une pâte et je laissais 2 heures. Il commence doucement à gonfler, mais il n'est pas encore bien à manger. Ça n'est pas bien fermenté. Cette pâte, il s'appelle seor de la Mishnah. Pas le seor du Chumash, c'est le seor de la Mishnah. Alors maintenant, nous allons lire cette Mishnah. Seor Yisaref. Le seor, il faut le brûler. Si tu es pendant Pessah et tu fabriques des matzot et tu as laissé trop longtemps ta pâte et commence à gonfler, il arrive à degré d'être seor, Yisaref, il faut tout de suite le brûler. Mais si tu le manges, ça veut dire tu dis, bon, je le mets dans le four tel quel et je me fabrique une challah et tu le manges, tu n'as pas tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du vrai chametz, c'est du demi-chametz. Ce n'est pas bien aigre, c'est une demi-aigreur. Un demi-aigreur, tu n'es pas tour. Sadouk. Si cette pâte, il est passé à un degré supérieur, mais ce n'est pas encore vraiment, vraiment comme c'est la coutume de manger le pain. C'est un peu moins, mais c'est déjà dépassé le degré de seor. Il est sadouk. Il est déjà coupé. Il a déjà des failles. La pâte a des failles. Yisaref, là il faut aussi le brûler. Va'ochlo, et si tu le mets comme ça dans le four et tu le fais sortir et tu le manges, hayav keret, on a hayav keret. Ça veut dire d'après ce tana-là, le premier tana, Rabbi Yehuda, il considère que le sadouk, le coupé, c'est des din comme si c'est du vrai chamet. Donc on est hayav keret. Eizu seor, maintenant la Mishnah Rabbi Yehuda il s'explique. Eizu seor, de quel seor j'ai dit qu'il faut brûler, mais si on mange, on n'est pas tour. Que karnei chagavim, comme des cornes de sauterelles. Comme des cornes de sauterelles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La pâte a gonflé comme des cornes de sauterelles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce qu'il fait ici la sauterelle? Il cuisine du pain avec des cornes de sauterelles. Il est permis de manger des cornes de sauterelles. C'est quoi ça? On a le droit de manger des cornes de sauterelles. Hein? Comment des cornes de sauterelles? Nous mangeons des sauterelles, non? Oui, qu'est-ce qu'il dit le vétérinaire? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il a guéri les sauterelles, alors il nous donne à manger Pessah. Pourquoi c'est les cornes des sauterelles? Il n'y a personne qui explique? Bon, alors, il s'agit bien sûr de quoi? Que la pâte, il a gonflé. Quand la pâte, il gonfle, à un moment, ça crée des failles, comme des failles dans un rocher. Il y a des failles et des fosses. Ils sont séparés, un vers gauche, un vers la droite, comme des cornes de sauterelle. Il y a une à gauche, une à droite. La pâte fait comme ça des failles à gauche et à droite. Ça, c'est des karne chagavim. Quand les failles sont comme ça, ça s'appelle seor et on n'est pas tour si on mange. Sadouk, c'est quoi sadouk? On continue jusqu'à ce que les failles ils se croisent. Il y a des croisements des failles. Et dans ce cas-là, on est chayav keret si on mange. Ça, c'est déjà considéré selon la Torah. Du vrai chametz, du vrai Rabbi Yehuda. Chachamim, ils disent, dans les deux cas, on est Havkeret. S'il y a déjà des failles, que les failles sont séparées ou ils se croisent, dans les deux cas, c'est du vrai Hametz. Veizu Seor. Et qu'est-ce que c'est le Seor? Que si on mange, on n'est pas Hayav Karet. Kol Shehirsif ou Panaf. C'est contre la couleur de la pâte, Hirsifu, est devenue comme Kesef. Hirsifu, ça vient du mot Kesef. Kesef, c'est de l'argent. L'argent est une expression, veut dire blanc. Pourquoi l'argent, il s'appelle blanc? Parce que l'or, il s'appelle jaune. Kesef, Bezahav, ou Nechoshet. Nechoshet, c'est rouge, l'or est jaune, et Kesef, on appelle ça le blanc, c'est une expression. Irsif ou panaf, quand la pâte est devenue blanche, que Adam, comme un homme, Sha'amdo Saharotaf, que ses cheveux se sont dressés. À quel homme les cheveux se dressent quand il est terrorisé? Tu terrorises un homme, il y a deux choses visibles, qu'est-ce qu'il arrive chez lui? D'abord, il devient blanc. Le visage devient blanc, le sang, il rentre dans le cœur, dans le foie, je ne sais pas. Et le sang, il rentre à l'intérieur des membres, se protège et le visage, il est tout pâle. Et en deuxième chose, les cheveux, ils se dressent. Alors donc, la couleur d'un homme qui pâlit parce qu'il a peur, c'est cette couleur la pâte recevoir au début du chimout. Alors, quelle est la raison que ça devient comme ça? Yuda, tu peux fermer, s'il te plaît. Ça dérange. Ah, merci. Alors, pourquoi la pâte pâlit? Quelle est la raison? Moi, j'ai aucune idée. Tu prends une pâte, tu prends du blé. On parle de quel blé? Le blé du pain blanc, qui est déjà blanc depuis qu'il est farine, ou on parle du blé noir, du blé qui n'est pas du pain noir? Je ne sais pas, quand tu mélanges avec de l'eau, quand tu commences les chimouts, quand la fermentation, les gaz carboniques, on dirait que les gaz carboniques, ils créent un changement de couleur parce que le sucre, il part en fumée, la couleur de la pâte change, il pâlit. Je ne sais pas, je n'ai jamais vérifié. Maintenant qu'on a lu dans la Mishnah, peut-être cet après-midi, si vos femmes font des halot, peut-être ça vaut la peine de vérifier pour comprendre la Mishnah. Canirait que c'est pas chaud, la Mishnah ne donne pas des détails, canirait que tous les enfants y savent, toutes les femmes savent, évidemment, ça devient blanc, c'est pas besoin d'explication. D'accord. On commence la prochaine Mishnah. Une minute. Cette Mishnah qu'on vient de dire vis-à-vis de ce or, on va de la Mishnah qu'une toute légère fermentation ne rentre pas encore Hametz. On peut encore la stopper. On dit Tiltosh, avant on a déjà dû. Tapach, Tiltosh Betzonen. Si ça gonfle un peu, on le refroidit tout de suite. Et on va se or. C'est Assour. Et ce qui mange, il est patour. Il est patour de carettes. D'après Rabbi Yehuda, c'est seulement quand il y a un peu des failles. Mais quand il n'y a pas des failles, on n'a même pas besoin, on a le droit de manger s'il n'y a pas des failles. Donc, devenir pâle, d'après Rabbi Yehuda, c'est rien. Malgré que c'est quelque chose. Et Chachamim disent, devenir pâle, c'est déjà du sort, c'est déjà assour. Alors, bon, il y a Machloket Akel, mais on voit que le début du processus n'est pas encore Hametz de tous les débuts. Ça, c'est l'achat-là pour les pâtes, quand on achète des pâtes panzani. Est-ce que les pâtes sont chametz? D'un côté, on prend du blé dur. Ça rend déjà difficile la fermentation. C'est possible que le blé dur, il s'appelle chitekour de naïta. C'est comme le blé kurde qui est jamais vrai chametz, mais chametz nukcha. Ça, c'est aussi du Chametz Nukcha. Le Seor, ça s'appelle Chametz Nukcha. C'est du Chametz qui n'est pas bien fermenté, il n'est pas agréable à manger. Ce qu'on a ici, il y a une machloket, quel est le degré de ce Chametz Nukcha. Mais dans le fond, on appelle ça Chametz Nukcha. Donc, la pâte, les pâtes panzani, eux, ils disent qu'il n'y a pas de fermentation. Nous faisons attention qu'il n'y a pas de fermentation. Ça dure des heures. Leur pétrissage, après leur séchage à l'air chaude, c'est séché sur des tapis qui bougent et qui montent, qui prennent des formes de tous les côtés. Ça monte comme ça, et tourne et machin. Ils font travailler la pâte afin de le sécher avec un certain degré de chaleur, et ils font travailler la pâte pour qu'il devienne pas chametz. C'est sur tous les processus du jus jusqu'à la fin. Il y a des indicateurs, pas des thermomètres. Il y a comment ça s'appelle? Vous m'entendez d'ailleurs, dites-moi, on m'entend? Hein, d'accord? Alors, il y a des petits trucs là qui mesurent toujours la chimoutz. Et ils disent que si nous voyons que ça commence le chimoutz, nous jetons la pâte. Ils ne veulent pas que ça devienne chametz. Maintenant, même, imaginons-nous que ça commence un petit peu, mais un petit peu, l'ichora, il touche betsonen. C'est pas encore le vrai chametz. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est possible que les pâtes, parce que, badaï, faut pas les manger chaque Pessah, tu mets dans l'eau, ça devient chametz. Mais il faut pas les garder non plus, peut-être c'est 8 chametz. Mais si on les a déjà gardés, si c'est chametz sur la fapesser, c'est possible qu'il n'y a pas de chametz sur la fapesser sur ça. Si il dit, ah bah, on l'a laissé, peut-être ça, il y a peine de chametz, peut-être c'est pas du tout de chametz. Je ne sais pas, il faut vérifier. Il faut un quelqu'un qui travaille dans l'alimentation pour savoir si c'est vraiment du chametz ou si c'est pas du chametz. Aussi, dans beaucoup de médicaments, quand il y a marqué amidon ou des choses comme ça, souvent, c'est pas passé par un vrai stade de chimoutz. Même si les médicaments, je sais pas, ils prennent aspirine, ils prennent un machin truc, et c'est marqué amidon. Si c'est amidon du riz, c'est pas chametz, ça fait pas partie des 5 céréales. Si c'est amidon du blé, ça pourrait être chametz. Mais c'est chametz que si c'est mélangé avec de l'eau, peut-être il n'y a pas d'eau. Mais disons, il y a 8 d'eau. Et même s'il y a d'eau, pour que ça passe le vrai processus de fermentation, c'est pas sûr, peut-être mélanger de l'eau et truc, et après, tout de suite, on a arrêté ce processus. Et aussi, quand on mélange avec un autre produit qui bloque, que ça ne devient pas du vrai chametz fermentation, alors disons que ça a commencé un peu, peut-être c'est pas chametz, même si ça a commencé un peu, c'est pas encore la madriga de Sehor, et même si c'est la madriga de Sehor, peut-être c'est la madriga inférieure de Sehor. Donc c'est chametz nukcha. Et chametz nukcha, les détarovet, et en plus, les chèmrefois, en plus, c'est mélangé avec d'autres choses qui ne le rendent pas consommable. Souvent, les chachot sont. C'est quand vous avez besoin, non pas vous, mais si certaines personnes, ils ont besoin de médicaments, et c'est marqué amidon du blé, si c'est un médicament, si c'est un aliment, comme on va donner Galias, deux images, ou je ne sais pas quoi, ou c'est un aliment, on donne à manger du daïsa pour un enfant avec de blé, alors c'est possible, je ne sais pas non plus, ça il faut demander les pharmaciens, est-ce que c'est du vrai chametz ou c'est pas du vrai chametz, aussi peut-être c'est des chametz nukcha ou peut-être moins que ça, ou peut-être plus, peut-être c'est plus que ça, mais dans ce qui n'est pas aliment, dans ce qui est médicament, et même s'il y a des amidons de blé, pour dire que vraiment c'est du chametz, je ne suis pas du tout sûr que c'est chametz. Et même dans l'hypothèse où c'était vrai chametz, du moment que c'est mélangé avec un autre produit qui le rend inconsommable, de toute façon, le Shulchan Aruch, il dit que quoi, que le fameux mouche et les. Comment ça s'appelle dans le Shulchan Aruch? J'ai oublié le nom, dans Siman Tav Mem Beis. Un médicament où il y a du chametz dedans, il y a plein d'autres choses jusqu'à que c'est dégoûtant de manger. Il n'y a plus d'issour de le garder à la maison. Et vis-à-vis de le manger, il y a du machmirim. Oui, la chumra, sauf si on est vraiment malade, il y a des mekelim. Sinon, il ne faut pas le manger. Mais en tout cas, garder la maison, on a le droit, même si c'est du vrai chametz qui est mélangé avec autre chose. Mais ici, amidon du blé, ça ne veut pas encore dire que c'est du chametz. C'est très, très possible que ce n'est pas chametz ou chametz nouk chez les déterovet et ce n'est pas bon. Ce n'est pas si terrible, toutes ces histoires-là. S'il y a une liste, on peut trouver un médicament qui n'a aucun chachach, vadaï, t'avoir la bracha. Si quelqu'un il peut avoir un médicament, il peut s'en passer de tout ce qui est amidon du blé. C'est bien, mais si on a besoin, on n'a pas besoin de faire beaucoup de problèmes de ça. Alors, maintenant, on va continuer la Mishnah dans Mishnah Bav. Le 14 qui tombe Shabbat. Le 14 quoi? Quel 14 il tombe Shabbat? Hein? Quel 14 il tombe Shabbat? Hein? Silence. Le 14 Nissan. Le 14 Nissan tombe Shabbat. Nous, Mazal Tov, où est le problème? Le problème qu'on ne peut pas brûler le Hametz. Alors, on va brûler quoi? Avant Shabbat. Alors, on n'aura pas de Chalot pour Shabbat. Alors, on n'a qu'à manger des matzahs. Mais on n'a pas le droit de manger matzah. Erev Pesach. On est coincé. Erev Pesach, on n'a pas le droit de manger la matzah. Ha'ochel matzah be'erev Pesach, ceux qui mangent la matzah la veille de Pesach, arukeba al urasato bebet chamiv, c'est comme il vit avec sa fiancée dans la maison de son père. Un homme qui est fiancé et il a prévu le mariage. Et la fille, elle est toujours chez son père. Et lui, il vit avec elle avant le mariage. C'est assur, tu n'es pas marié avec elle, mais elle est réservée. Mais elle est réservée pas pour maintenant, elle est réservée pour après le mariage. Donc, les matzot, c'est la fiancée du juif. Et tu vas te marier avec la matzah la nuit. Et la veille de Pessah, tu n'as pas le droit de le consommer. Bon, c'est une histoire de la banane. C'est pas comme vivre avec ça ou ça. Bon, alors, on ne mange pas de la matzah la veille de Pessah. D'accord. Mais, alors, matzah, je ne peux pas manger Shabbat qui est Erev Pesach. Et Chala, je ne peux pas manger si je l'ai déjà brûlé. Alors, il ne faut pas brûler. Il faut laisser un petit peu. Comme ça, c'est un petit peu que ce que je vais manger Shabbat. Et après, si je n'ai pas terminé de manger, je fais quoi avec le reste? Je ne peux pas brûler. Alors, voilà la Mishnah. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Arba, ça, c'est Chaliot de Shabbat, mais Varim et Takol, mais Lifné à Shabbat. On ne va air, on enlève tout avant Shabbat, on brûle tous les chametz avant Shabbat. Ça veut dire quoi être hakol? Ça veut dire quoi tout? Tout on brûle. Ça veut dire tout chametz on brûle, que ce sera terouma ou que ce sera roulin. Même si normalement la terouma, on n'a pas le droit de brûler. C'est assourd de détruire terouma. Mais s'il arrive Pessah, on est obligé de brûler. Alors, ou tu manges, ou tu brûles. Mais je ne sais pas si je les mange. Eh bien, il faut se débarrasser. Mais Marine, tu débarrasses tout avant Shabbat. Il ne faut pas laisser pour Shabbat. Sauf Chutz Mikdei Achila le Shabbat. Sauf ce que tu manges pour Shabbat. Combien je mange Shabbat? Chez nous à la maison, 1 kilo. Alors, tu gardes 1 kilo. 1 kilo pour Shabbat. Tout le reste, tu manges. Divrei Rabbi Meir. Chachayim Omrim. Bismanam. Non, je peux mettre 2 kilos et je mange 1 kilo. Après, je fais quoi? Et je fais quoi après? J'ai besoin de débrouiller. Et comment on se débrouille? On a des animaux, on a un chien, on a une vache, on a des oiseaux, on éparpille, on sème pour que les oiseaux viennent. Alors, on peut se débarrasser comme ça. D'accord, c'est-à-dire le matin, pas l'après-midi. Le matin, Erev Shabbat, Shabbat, et le matin, on a le droit de l'éparpiller. Il n'y a pas d'issour de tochen. Un tochen, un tochen, tu peux le donner aux oiseaux. Rahamrim bismanan, Rabbi Lazar, tzadok omer, teruma milifni à Shabbat. Teruma, il faut se débarrasser avant Shabbat. Bechulin bismanan. Pourquoi il fait une différence? Parce qu'on ne peut pas donner à manger les troumas, c'est plus difficile de se débarrasser. Parce qu'une des débarrassements, c'est donner à manger aux animaux. On n'a pas le droit de donner à manger troumas aux animaux. Alors, c'est pour ça, il faut que tu te débrouilles déjà à se débarrasser Erev Shabbat. Olech lishchot et pishu, un homme qui voyage la veille de Pesach pour faire la shrita de son korban Pesach. L'après-midi à Yerushalayim, on fait korban Pesach. Donc notre ami, il habite à 10 km d'Yerushalayim et il prend son âne et il voyage avec sa famille à Yerushalayim. Olech lishchot et pishu, ou la moulet benou, ou une autre chose. Il voyage pour faire la mila de son fils. Pourquoi il voyage? Il n'était pas au même endroit que son fils. Son fils est né à Haïfa. Lui, il était en voyage à Tibériade. On lui a téléphoné, viens à Haïfa pour faire la mila. La mila sera RF Pessah. Très bien. Donc, il voyage de Tibériade un jour avant Pessah et lointain. Il voyage pour arriver le Haïfa RF Pessah. Très bien. Mais le Chol Soulat Erosemet Hamav ou un troisième cas. La première mitzvah, c'est ou soit qu'il veut faire le Coran Pessah. Deuxième voyage, il veut faire la mila de son fils. Troisième sort de voyage, les Chol Soudat Erosem Bet Ramav, il veut manger le repas de fiançailles chez son beau-père. Fiançailles, ça veut dire les soudats du fiançailles. C'est aussi une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que ça crée Kiruv Hada'at. On échange les cadeaux. C'est ce qu'on appelle le henné. Le repas qu'on mange chez le beau-père avant le mariage, où il y a un échange de cadeaux, comme ça dit la Gemara, et ce repas, c'est un soudat mitzvah. Pourquoi c'est un soudat mitzvah? Parce que c'est créé qui rouvre le vavot, se rapproche les sentiments. Donc, il faut rapprocher doucement. Doucement. Un mariage, ça ne se fait pas brutalement. Il faut doucement du kirouf adahat. On fait pas, on vit pas avec une femme brutalement. Ça, c'est le derrière des Australiens et des Kiwis au milieu d'Afrique. Mais chez les Juifs bien élevés, le mariage, ça se prépare avec Kirovada doucement. Donc, il y a un mitzvah de manger la souda de Bet Hamiv. Donc, lui, il veut faire la souda RF Pessah. Il n'a pas trouvé un autre jour pour faire. Il n'a pas trouvé un autre moment. Peut-être non, il veut passer le Pessah chez son beau-père. Il veut passer le Pessah chez son beau-père. Donc, il se dit, à la place de faire deux voyages, ben, je vais faire le Pessah, je viendrai chez vous et on va faire le fiançailles. Après, je passe le Pessah chez vous. D'accord. Et après qu'il a voyagé, il a commencé, il s'est mis en marche, il se rappelle, il a oublié de brûler le chametz. Et le Pessah le matin, il faut brûler le chametz. Il a oublié de brûler. S'il peut retourner à la maison, brûler le chametz et repartir et refaire la mitzvah de Pessah ou de Mila ou de Soudat et Rosin, alors dans ce cas-là, il retourne à la maison et qu'il repart. Vimlaf, s'il n'a pas le temps, s'il va retourner à la maison, il va rater la Mila de son fils ou il va rater le Coran Pessah. Dans ce cas-là, il n'est pas obligé de retourner à la maison. Mais Batlo Belibo, il fait le bitoul. Quand on fait le bitoul Belibo, ça veut dire on dit, je déclare que tout le Hametz, je le considère comme nul et non avenu. C'est-à-dire que si quelqu'un, il veut venir le prendre, ça ne me dérange pas du tout, il peut s'en servir, aucun problème. Dans ce cas-là, il a fait le bitoul. Dans ce cas-là, on ne transgresse pas Baliere. Selon le Hametz, ils ont instauré. Il ne suffit pas de faire le bitoul, il faut le brûler, il faut le débarrasser, le chametz aussi. Mais lui, la mitzvah de Rabbanan, de débarrasser après le bitoul, il va rater cette mitzvah de Rabbanan, il a le droit de rater la mitzvah de Rabbanan, étant donné que maintenant il est occupé avec une mitzvah déjà, une grande mitzvah de Soudat Erzumet Hamav, ou le mila de son fils, ou de Pessah. Mais cette mitzvah de mila de son fils, comment on parle? Qu'elle lui... il doit donner les ordres de faire la mila de son fils. Mais imaginons qu'il a déjà donné la mila, l'ordre au Mohel, il a téléphoné de Tibériade à Haïfa, alors RF Pessah, ma femme est à l'hôpital à Haïfa, vous faites la mila, et moi j'espère d'arriver. Je prendrai ma voiture à 5 heures le matin à RF Pessah, et je viendrai à Haïfa. Et maintenant, il est parti, il est maintenant sur la route, il se rappelle qu'il a du chametz à la maison. Si maintenant il va retourner à Tibériade, Et après votre revenir à Haïfa, il va rater la Mila. Mais la Mila sera faite parce que le Moël à Haïfa, il a reçu l'ordre. Seulement, le père, il va rater de ne être présent. Mistaber que ça, c'est pas. Ça s'appelle pas que tu rates la Mila. Quand tu n'es pas présent à la Mila, est-ce qu'il est obligé d'être présent à côté de la Mila? Il n'est pas obligé d'être présent. Il a raconté, je pense, Rafraïkin, que Rabbi Wasserman, il a étudié chez le Chafetz Chaim quand il était jeune. Il a étudié et après il a dit, il a reçu un télégramme. À l'époque, ce n'était pas encore des mails. Il a reçu un télégramme que sa femme a accouché un enfant. Alors, ça me dit, alors c'est comme Mazal Tov, et qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, est-ce que je retourne à la maison? Et il a dit, il y a un Mohel dans votre ville? Il dit, oui, toi tu es Mohel? Il dit, non. Il dit, ah, pourquoi tu veux aller? Alors, reste là, même. Il était au collège. Rav Chavetzraïm, il a un collège coaching. Reste au collège, pourquoi tu veux partir? On étudie. De toute façon, tu n'es pas Mohel. Un autre Mohel là-bas. Comme ça, eux, ils étaient pour eux, les Lernen. Et même pour les femmes. Le mari n'est pas venu. Le mari, il étudie. Alors, la femme était contente. Ils étaient construits comme ça. Alors, assister à la Mila de son fils, c'est un truc, mais c'est pas la peine de faire une semaine de Bitul Torah pour ça, ou une semaine ou une demi-semaine. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, les voyages chez eux. Bon, alors, en somme, je ne pense pas que c'était très loin. Branevitch de Radin, ce n'était pas très loin. Ce n'était pas très loin. Comment c'était considéré comme Bitul Torah pour eux? Bon, alors, alors, si maintenant quelqu'un il a quitté Erev Pesach le matin, sa ville, de sauver des juifs de la main des Nochrim. C'est-à-dire quoi? Il y a une attaque terroriste. Il y a un terroriste qui sont venus, ils ont attaqué un village juif et on appelait ce juif-là, venez aider. Alors lui, Erev Pesach, tout de suite, il va avec un couteau, avec une fourchette, avec une hache, avec une lance, avec je ne sais pas quoi. Bon, il court dans cette ville pour sauver. Alors, ou min hanahar, ou d'un fleuve, un fleuve qui a débordé, il faut sauver la vie des gens. Ou min halistim, ou des gangsters. Ou min hadleika, ou d'un incendie. Ou min hamapolet, ou d'une maison qui s'est écroulée. Il faut enlever les pierres pour et sortir les gens qui sont sous la maison. Et maintenant, quand il est sur la route, il se rappelle qu'il a oublié d'enlever le chametz. Alors, il y a tel Bilibo qui fait bitoul dans son cœur. Il ne faut pas retourner, même s'il a le temps. On lui dit, écoutez, le fleuve, il est venu, mais ça va, c'est pas grave. Vous avez 3 heures pour venir. Si dans 3 heures, vous êtes là, c'est bon. Et bien, on dit non, on ne retourne pas, on va tout de suite. Dans une demi-heure, je suis là-bas, je vais aider. Non, si vous ne venez pas dans une demi-heure, dans 3 heures aussi, c'est bon. Non, on ne fait pas comme ça. Parce que Zariz, Arze, Meshubar, donc Piku, Arnefesh, dès que tu commences le plus vite possible, on ne fait pas des piles poulim. Est-ce que ça c'est aussi pour un Chilul Shabbat? Ici, tout ce qu'il rate, c'est quoi? Il rate la mitzvah de Bio Chametz Midarabanan. Alors là, on dit, fais pas des pile-poules. Mais si c'est un chilul Shabbat, imaginons-nous une femme, Shabbat après-midi, elle commence à sentir des contractions. Alors, voilà, ça va venir. Mais c'est pas, ça n'a pas pression, ça va pas naître Shabbat. Il va pas naître avant Motsé Shabbat. Donc, je peux prendre la voiture Motsé Shabbat. Une femme qui connaît comment ça fonctionne. Ça c'est des signes que ça va venir demain. Je peux prendre la voiture maintenant, je vais prendre la moitié Shabbat. Est-ce qu'on dit non? Il faut tout de suite aller. Alors pour un accouchement, je pense que non. Pour un accouchement, on connaît, c'est pas. Mais si c'est un autre danger, quelqu'un s'est coupé, peut-être ça donne une infection. Il faut une piqûre. Contre la, comment on appelle ça, la maladie, docteur? Il faut une piqûre contre le Hein? Comment il s'appelle la piqûre que, par qui il y a une infection quand on s'est coupé? Tétanos. Alors, il faut une piqûre tétanos, mais on n'est pas pressé. On peut prendre dans les, je sais pas, 6 heures ou 12 heures. On a le temps, donc on peut aller à l'hôpital prendre la piqûre et le soir aussi. Est-ce qu'on prend la voiture Shabbat pour prendre la piqûre contre le tétanos? Si on est sûr et certaine qu'il n'y a pas de danger, on n'est pas obligé de prendre. Si on est sûr, s'il y a un safek, on est machal Shabbat. Mais si c'est sûr et certaine qu'il n'y a pas de danger d'attendre jusqu'à la soirée, c'est sûr qu'on va arriver à. Dans ce cas-là, Mistama, on ne prend pas. Mais ici, dans la Mishnah, soit ce sont des choses qu'on ne sait jamais exactement comment ils vont tourner. Nochrim, Nahar, Listim, Delika, Mapolet, tu ne sais jamais comment ça tourne. Alors, dans ce cas-là, la mitzvah, c'est d'être le plus vite. Mais c'est possible que même quand on est sûr qu'on va arriver plus tard, comme ça, c'est que de Rabbanan de faire Bitul Chametz, il a déjà fait Bitul Chametz, seulement le Bio Chametz, mais de Rabbanan, ça, on n'est pas obligé de faire des piles pour le Chilul Shabbat, si on est sûr, on a le temps, mais ça, on n'est pas Mechalel Shabbat. S'il y a un doute, tout de suite, on est Mechalel Shabbat. Oui. Vilishbot, Shevita, Tereshut, Yahzor Miad. Et si RF Pessah, donc, il voyage pour un reshut, pour quelque chose qui est facultatif, et bien, il va faire mettre un Eiruv parce qu'il veut se promener dans la forêt pendant Shabbat. Et il se rappelle qu'il a oublié de brûler la Chametz. Là, il était obligé de retourner à l'avant. Et même si tu vas rater de mettre ton Eiruv, tu es obligé de retourner à la maison. Si c'est Shvita Tereshut, si c'est un Eiruv que tu mets pour quelque chose de facultatif. Mais si c'est un Eiruv qu'on ne met pas pour facultatif et pour une mitzvah parce qu'il veut visiter un malade, dans ce cas-là, s'il retourne à la maison, il va rater cette mitzvah de mettre l'Eiruv. Dans ce cas-là, il n'est pas obligé de retourner. D'accord. Un homme qui sort d'Yerushalayim et il se rappelle chez Biado Bessar Kodesh. Ça, c'est une Mishnah qui n'a pas tellement de rapport avec du Hametz. Mais ça ressemble un petit peu à l'histoire là. Donc, la Mishnah nous a mis ce dîner ici. Un homme, toute l'année, ici, on parle toute l'année, il sort d'Yerushalayim et il a dans sa poche un morceau de kochim. Il a fait un korban shelamim. On peut le manger 2 jours à une nuit, mais on peut le manger qu'à Yerushalayim. Donc, il vient d'apporter un mouton comme Korban Shelamim, une vache comme Korban Shelamim. Il a ici 10 kilos de viande sur lui. Il a dans sa valise et il veut manger dans un camping à Yerushalayim, à l'intérieur au parc. Il va faire une grillade avec sa femme et ses enfants. Il va se faire un kiff. Il va manger le Korban Shelamim Yerushalayim. Et après, quelqu'un lui téléphone. Et il lui dit, tu peux me réparer ma roue où tu es? Je suis ici à Beth Shemesh. D'accord. Il met sa viande dans la valise, il met dans la voiture, il voyage et il est en dehors. Yerushalayim lui dit, oui, je suis un chamor. Mais attends, j'ai des poches à kochim chez moi. Et il est sorti en dehors d'Yerushalayim. Ça y est, il est grillé. Cette viande, non, il n'est pas grillé, il est cuit. Non. Ça veut dire qu'il est inconsommable. Je ne peux plus manger Bessar Kotchim qui est sorti en dehors d'Yerushalayim. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, la halakha dit qu'il faut retourner à Yerushalayim et le brûler à l'intérieur d'Yerushalayim. C'est pas sûr, il faut le brûler à Yerushalayim. Mais lui, il est déjà loin, il est déjà à Beth Shemesh. Alors, je brûle à Beth Shemesh. Ah non, la mitzvah, c'est de brûler Yerushalayim. Pour ça, je suis obligé de retourner. Alors, la Mishnah nous dit, mais ici, Yerushalayim qui est sorti Yerushalayim, et Nizkar, il se rappelle, chez Yeshbiado Bessar Kodesh, il a de la viande de Shlamim chez lui. S'il a passé la Hartsofim. La Hartsofim, aujourd'hui, Yerushalayim, c'est là où il y a l'université. L'université de Hartsofim. C'est ça qu'on appelle Mont de Scopus. C'est 1-2 km loin du Kotel. Imavartsofim. Moi, j'étais une fois sur la Hartsofim, là-bas, de l'université. On fait la tfila, il y a un besmedrish là-bas, un bet Knesset, et il est ouvert au Kotel. Il est au-dessus du Kotel et on regarde directement sur le Kotel. C'est vraiment devant, peut-être c'est 1 ou 2 km, donc ça va très clair, on voit. Im avant Tsofim, si le type il a déjà dépassé, donc Tsofim la hara Tsofim, Sorfo bim komo, il peut brûler là où il est, bim lav, s'il n'a pas encore dépassé le Tsofim, Oserbe Sorfo l'ifni abira, il est obligé de retourner, le brûler devant le Bet Amikdash, mais atse maracha, il peut utiliser le bois de la maracha. Obligé de donner son propre bois. Vat kama hen chosrin, quelle quantité de viande il faut pour retourner, Rabbi Meir Omer, zeb et zeb kabeitza. S'il y a une kabeitza, quand on dit zeb et zeb, ça se rapporte pas seulement pour la viande de Hekdesh, ça se rapporte aussi pour la chametz. Avant, on avait dit que si on a oublié de débarrasser, il faut retourner à la maison. Mais on est obligé de retourner à la maison, Rabbi Meir, seulement zeb et zeb kabeitza. Si tu as un kabeitza de chametz, moins que kabeitza chametz, tu n'es pas obligé de retourner, malgré qu'il faut brûler même un kazait. Mais le din de retourner, c'est seulement si tu as une kebeitza. Et pour la viande aussi, Rabbi Yehuda Omer, zeb zeb kezait, les shiur de basar kodesh et de chametz que de retourner, c'est kezait. Le chacham yomri, basar kodesh, c'est kezait, et chametz bekebeitza. Bon, on va arrêter ici. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Il n'y a pas de questions? Hein? Est-ce que quelqu'un a une question pour Hilchot, pour le Mishnayot? Sur Hilchot. Hein? Bon, s'il n'y a pas de questions, passez un bon Shabbat, en bonne santé, Shabbat Shalom. Et on se retrouve à Ezrat Hashem, Motzei Shabbat, 9h30, on avait dit. Kol tov.